Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Europa Voice numéro 122, et comme à chaque épisode, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors on va parler de deux sujets très importants, mais on va commencer avec la Slovaquie. La Slovaquie qui est allée aux urnes, et un peu sans surprise, la Slovaquie qui tourne, qui vire vraiment à droite avec l'élection de Robert Fico en anglais, ou dans le slovaque, dans mon meilleur slovaque. En tout cas, il est à la tête maintenant du pays, la Slovaquie, et c'est un revirement à droite parce que il est un petit peu fan de Poutine et de Urban et de toute cette mouvance là.
Les sources d'inspiration, effectivement, Christophe, de Robert Fico, le nouveau leader slovaque, sont à voir du côté des plus conservateurs en Europe, donc notamment Orban, hein, vous l'avez cité, mais effectivement du côté de Poutine, on voit un véritable revirement de la part du leader slovaque et donc de la Slovaquie, parce que son idée, c'est de réaligner aussi sa position par rapport à l'aide à l'Ukraine. Ça avait été quelque chose qui avait été beaucoup mis en avant pendant la campagne électorale. Et donc, confirmation qu'un autre pays européen vire à droite, une des droites les plus conservatrices. Alors, quand je dis droite, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau européen, le parti de Fico est encore allié aux sociaux-démocrates européens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, il est appelé le Viktor Orban de gauche. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, si ça présage de beaucoup de bonnes choses pour le parti socialiste-démocrate européen. Mais en tout cas, un pays de plus à l'Est qui tombe dans le giron le plus conservateur et de droite possible.
Alors, c'est intéressant de s'attarder là-dessus, justement. On va parler de la Slovaquie, bien entendu, mais on va élargir un petit peu le débat. Vous l'avez dit, la Hongrie, il y a la Pologne, il y a une interview qui fait le tour beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment d'un dirigeant polonais qui se tarde d'avoir pris zéro réfugié d'une autre religion que la religion catholique. Je vous laisserai regarder si vous voulez, mais c'est une vidéo presque hallucinante pour un pays comme la Pologne. Et donc virement à droite. Il y a aussi des pays comme l'Italie. On sait l'Italie est passée quand même pas mal à droite. Il y a eu pas mal de conflits avec la France, des accrochages en tout cas avec la France, pas des conflits, des accrochages diplomatiques avec la France. On sent que toute cette partie de l'Europe, peut-être une partie tampon qui est même géographiquement beaucoup plus près que la France de la Russie peut-être. En tout cas, cette culture de l'Est, je retire l'Italie là-dedans, mais cette culture de l'Est, on a l'impression que l'immigration pose quand même pas mal de problèmes par là, et ça se met vraiment au cœur du débat, et les électeurs n'ont plus honte de voter à droite, très à droite.
Oui, alors...
C'est bien résumé, quoi.
C'est bien résumé. pour la Slovaquie, je dirais qu'il y a presque deux niveaux, il y a deux plans, en fait, il y a deux choses qui se choquent, qui se confrontent. La première, et d'ailleurs, il l'a dit, Robert Fico, il fera tout pour entamer au plus vite des négociations de paix sur l'Ukraine, et c'est la seconde partie de la citation qui pour moi est vraiment importante, tout en estimant, et là je le cite le leader, que les Slovaques ont des problèmes plus importants que la guerre vécue par leurs voisins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Slovaquie, mais comme d'autres pays à l'Est, commence un petit peu à ressentir l'usure de cette guerre interminable entre l'Ukraine et la Russie, mais donc aussi à sentir l'usure d'une aide forcément à apporter côté ukrainien. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il y a une usure sur le terrain, mais il y a aussi une usure du soutien et de l'unanimité qui était pourtant là au départ.
Alors là, je veux juste mettre Léo là, parce que la Slovaquie, elle est dans l'Union européenne. L'Union européenne a des valeurs. Quand un pays comme la Slovaquie élit un nouveau dirigeant, ils doivent quand même obéir par les certaines valeurs, les certaines obligations qu'ils ont avec l'Union européenne. Et c'est peut-être là où c'est intéressant au niveau européen de sentir qu'il y a un petit peu un décrochage au niveau de la population de ces pays-là, avec les droits et les devoirs de ces pays qui sont membres de l'Union européenne.
Alors finalement, il faut adhérer aux valeurs de l'Union européenne. D'ailleurs, on en parlera sûrement dans la deuxième partie de cette Europa Voice. Pour faire acte de candidature, mais il suffit de prendre l'exemple hongrois. Oui. Je veux dire, la Hongrie de Orban est véritablement très peu ou pas sanctionnée par l'Union européenne, malgré le non-respect de certaines valeurs de l'état de droit, de liberté de la presse.
Enfin, le fameux mur contre les migrants.
Le mur contre les migrants.
Énormément de choses.
Les minorités LGBT, etc. Donc, en fait, Fico ne fait, j'allais dire, qu'appliquer, que singer, que copier ce qui se passe avec son voisin hongrois. Mais ce que je voulais dire, c'est que premier élément, c'est cette usure d'un soutien global à apporter à l'Ukraine. Et puis le deuxième élément, c'est que moi, ce que je trouvais intéressant dans cette élection un peu confidentiel, hein, il faut le dire. On analyse pas tous les jours les élections en Slovaquie. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je vois une couverture aussi importante d'une élection slovaque dans les médias français. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que cette élection et cette campagne, elle a regroupé un petit peu tous les maux des campagnes politiques du 21e siècle. C'est-à-dire, ça a été fait, cette campagne, elle a eu lieu sous fond de corruption, d'accusations d'ingérence russe.
Oui, les deepfakes.
Elle a été faite, voilà, sur tout ce qu'il y a de plus mauvais et de plus, j'allais dire, nuisible en termes de technologie, deepfake, fake news sur les réseaux sociaux par rapport que les partis entre eux se lançaient. Elle a été faite sur vraiment des méthodes qu'on peut qualifier d'un autre temps par rapport à la menace, l'arrivée en masse de migrants presque pour faire peser une menace avant le scrutin et donc permettre à l'extrême droite d'être élue plus facilement. Donc vraiment, c'est intéressant parce que cette élection slovaque assez confidentielle, encore une fois, elle réunit tous les maux du 21e siècle en rapport avec la technologie, les fake news, les manœuvres politiciennes. Et ce qui est intéressant, c'est que il y aura pas de contestation parce que c'est aussi sorti des urnes. C'est-à-dire que c'est pas un putsch, c'est pas un coup d'État, c'est une élection qui a été faite démocratique. Et d'ailleurs, c'était le sens des mots de la présidente slovaque, que c'est les électeurs qui ont choisi ça. Alors après, c'est un petit peu à nuancer dans le sens où il va devoir faire une coalition. Donc on peut espérer aussi que ces velléités de droite dure vont être un petit peu atténuées par ces obligations de réal politique en termes d'alliance avec d'autres partis pour pouvoir gouverner. Mais en tout cas, voilà, un autre pays d'Europe, de l'Union européenne, qui tombe entre les mains d'un leader d'une droite dure, avec des valeurs, comme vous l'avez mentionné, qui ne sont pas forcément en ligne avec celles de l'Union européenne.
Alors, ce qu'on peut imaginer, si j'avais une caricature à faire, on peut dire que Ursula von der Leyen, elle a une épine dans le pied droit avec Orbán. Maintenant, elle a une épine dans le pied gauche en Slovaquie.
Oui, elle a une épine aussi en Italie, elle a une épine en Pologne.
Ça commence à être des sacrés hérissons, tout ça.
Voilà, non, mais c'est compliqué. Et puis, il y a aussi cette question aussi. J'allais dire, avec Mélanie, c'est un petit peu moins oppressant, mais il y a cette question encore quand même de cette zone tampon. On avait parlé, et vous l'avez mentionné en début de cette interview, c'est que il y avait quand même tous ces pays de l'Est qui faisaient au début zone tampon avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et puis là, avec cette usure-là, bah, il y a un besoin de réel politique, il y a un besoin de continuer, pour des questions de réalité politique, à quand même avoir des relations avec la Russie, à gérer cette question des migrants. Il y a aussi des choses qui sont quand même incroyables, hein, quand on parle des sujets d'immigration en Europe et qu'on revient à chaque fois sur les épisodes à Lampedusa et l'inertie de l'Europe à gérer collectivement les flux de migrants qui échouent sur les îles italiennes et que les Européens se refusent de prendre. On voit la même chose avec les contrôles aux frontières et les introductions de contrôles aux frontières entre des pays de l'Union européenne, hein, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, Pologne, avec des contrôles provisoires. Enfin, je veux dire, on est même à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'Union européenne, qui est la liberté de circulation des hommes, qui est les frontières à l'extérieur des pays de l'Union européenne. Soit, c'est normal, c'est un ensemble cohérent, mais remettre des frontières entre pays au sein de l'Union européenne pour répondre à la question, aux problématiques, aux enjeux migratoire, c'est tout simplement hallucinant. Et c'est ce qu'on est aussi en train d'observer. Donc c'est au-delà des élections, j'allais dire, dans les pays, c'est ce que ces élections entraînent en termes de remise en cause de l'esprit, encore une fois, de ce qu'est et de comment a été fondée l'Union européenne.
Est-ce qu'on a peur que ça déborde plus vers l'ouest et que petit à petit, des pays comme la Belgique, comme la France, hein, faut pas en avoir peur de le dire. On sent qu'il y a un mouvement en France avec Marion Maréchal, l'union des droites qui pourrait être une union des droites. On sent qu'on a peur en France, vous croyez, et on regarde ça vraiment très attentivement, cette espèce de mouvance vers le populisme.
La mouvance vers le populisme, c'est un fait, c'est une réalité, Christophe, même dans les pays de l'Ouest européen, si on peut les qualifier comme ça. Je veux dire, les partis d'extrême droite ont été les premiers parlementaires d'extrême droite ont été élus en Allemagne il y a quelques années de cela. Ils étaient absents des institutions Bundestag, Bundesrat pendant des années. On a vu leur retour il y a quelques années de cela. En France, ça fait quand même 3 élections présidentielles et 2 décennies que l'extrême droite accède au second tour de l'élection présidentielle avec à chaque fois un score plus grand. Donc c'est une réalité aussi. Ce populisme-là, cette extrême droite, cette droite extrême, c'est une réalité pas seulement dans les pays d'Europe de l'Est, mais c'est aussi une réalité dans les pays, j'allais dire, fondateurs, Belgique, Allemagne, France, Italie, de l'Union européenne.
Allez, deuxième partie d'Europa Voice, toujours avec Nathanaël Bloch dans les studios. Parlons maintenant d'adhésion à l'Union européenne plus largement. Et puis, on va se focaliser sur un pays comme la Moldavie. Faites-nous le point un petit peu de cette situation, parce que c'est, encore une fois, et on l'a vu encore en première partie, la Moldavie peut être un pays aussi qui est un peu borderline, en tout cas sur leur attitude, mais ça pose la question de l'adhésion à l'Union européenne.
Alors, la toile de fond, Christophe, dans ces questions d'adhésion, c'est toujours la même. C'est... la problématique de l'élargissement de l'Union européenne au vu de ses manquements en termes d'approfondissement. Est-ce que l'Union européenne des 28-1, j'aime bien rappeler qu'au moment où on était 28, il y a encore peu d'années de cela, mais est-ce que le manque d'intégration des politiques des 27 actuellement permet véritablement, et dans des conditions saines, d'envisager l'élargissement de cette même Union à 6, 8, 10 pays, principalement des pays d'Europe de l'Est. Ça, c'est vraiment la question, c'est la toile de fond, et on en a parlé dans beaucoup d'épisodes d'Europa Voice. Mais il y a une deuxième toile de fond qui s'est rajoutée ces dernières années, ou cette dernière année et demie, c'est le conflit en Ukraine. C'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Parce que, on l'avait vu, hein, à quelques jours à peine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Ukraine toque ou retoque à la porte, pas seulement de l'institution européenne, mais aussi la porte de l'OTAN. Il y a véritablement quand même cette Union européenne qui est vue comme un facteur de paix pour beaucoup de pays d'Europe de l'Est qui n'y appartiennent pas. Et puis, ce n'est pas seulement l'Ukraine, hein, c'est la Moldavie, puisque c'est le pays dont on parle et qui maintenant est sous le feu de l'actualité. La présidente moldave, elle, en mai dernier, avait signé un accord sur la création d'un registre des dommages causés par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Alors, ce n'était pas dans les institutions de l'Union européenne, c'était au Conseil de l'Europe. Mais en fait, clairement, la position de Chisinau, c'est de dire « La Russie nous menace directement, aidez-nous, ouvrez-nous les portes de l'Europe, qu'on puisse être protégé parce qu'il y a une menace directe. » Et donc, vraiment, c'est intéressant parce qu'il n'y a plus que cette toile de fond de élargissement versus approfondissement. Il y a aussi, est-ce que finalement, on n'ouvrirait pas plus rapidement les vannes de l'Union européenne parce que là, il y a une menace directe et que la seule solution et la seule entité politique capable de nous protéger, c'est l'Union européenne.
Et ça, c'est bon, c'est clé pour la Moldavie, ça peut être clé pour bien d'autres pays, notamment l'Ukraine, vous l'avez dit également. Est-ce qu'il y a un côté un peu cynique quand même dans de certaines parties de l'Europe qui tenterait à dire que, bon, on se sert un peu de ça quand même pour accélérer un processus qui, au final, est quand même assez long. On l'a vu avec d'autres pays pour intégrer, comme la Macédoine du Nord, par exemple, où ce processus de décision d'intégration, il est très long. Est-ce que si on est un peu cynique, on peut aussi se dire, bon, ok, ça met un petit peu le pied à l'étrier, ça raccourcit un peu les délais.
Je ne sais pas si c'est du cynisme ou c'est vraiment, encore une fois, de la réelle politique ou de la géopolitique, parce qu'on a parlé de la Moldavie, de l'Ukraine, mais c'est la même question qui se pose dans les Balkans occidentaux, dans ce qui va être Macédoine du Nord, Serbie, Monténégro, Albanie, Bosnie-Herzégovine et Kosovo. C'est la même question de l'élargissement de l'Union européenne pour ne plus être sous la sphère d'influence d'un voisin qui devient de plus en plus pressant, dangereux, et c'est surtout une manière de reconstruire encore une fois une économie forte, une politique forte après des années de guerre, là en l'occurrence dans les Balkans. Donc la question, non, je crois que le vrai cynisme, ce serait que l'Union européenne accueille à bras ouverts, ou en tout cas dise par principe oui, sans véritablement montrer à ces pays que ça va prendre des années, parce que c'est pas seulement faire acte de candidature des pays, enfin c'est pas seulement demander à adhérer à l'Union européenne, c'est après il y a l'étude d'un dossier pour voir si ces pays-là peuvent effectivement candidater pour adhérer à l'Union européenne. Donc c'est presque une sélection pour savoir si vous avez le droit, pour savoir si ces pays ont le droit de faire officiellement acte de candidature. Donc c'est une étape encore préliminaire. Mais d'ailleurs, sur cette question du cynisme, sur cette question de quoi faire et comment l'Europe se comporte, là il y a eu un rapport qui a été fait au niveau de l'Union européenne par plusieurs chercheurs en géopolitique, et qui montrait justement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire du côté de l'Union européenne, notamment une révision de certaines règles, la règle de la décision, enfin la règle de l'unanimité, que en fait il va falloir peut-être alléger cette règle-là, parce que déjà qu'à 27 c'est compliqué, à plus ça va encore être plus compliqué. Et une autre question que moi je trouve un petit peu dangereuse, et on pourra en parler dans un prochain épisode d'Europa, c'est la question presque d'une Europe à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que si on intègre d'autres pays au sein de l'Union européenne, est-ce que finalement, donc en plus de cette révision de la règle de l'unanimité, est-ce que finalement on ne va pas se dire qu'il y a une Europe, par exemple, qui participe aux politiques les plus intégrées de l'Union européenne, c'est la question par exemple de la zone euro ou de l'espace Schengen, mais il peut y avoir un second ensemble d'États membres qui ne participent pas forcément aux mêmes politiques, et il y a même par exemple des pays qui pourraient ne pas appartenir au marché unique, qui n'appartiendraient qu'au marché unique sans appartenir à l'Union européenne. Et puis après, il y a encore même une étape ou un niveau supplémentaire qui est celui simplement de pays qui coopéreraient, et ça c'est à analyser à la lumière de la communauté politique européenne, une espèce d'autre pas institution mais un autre groupe de deux pays qui a été lancé en 2022, pardon, et qui regroupait plus des pays qui appartiennent géographiquement à l'Europe. Donc vous voyez, il y a plein de questions qui sont encore à être résolues avant que ces pays puissent j'allais dire de manière constructive faire acte de candidature pour intégrer l'Union européenne.
À mon avis, il y a une autre question par-dessus tout ça, c'est l'aide américaine, parce qu'on sait que la Moldavie, c'est un pays qui est sous perfusion américaine. Il y a d'autres pays dans cette région qui le sont également. Ça voudrait dire aussi peut-être potentiellement abandonner cette aide américaine si un pays comme la Moldavie rejoignait l'Europe, parce que les deux sont pas forcément compatibles. Ça rentre en jeu aussi, donc ça vient un peu en conflit avec, entre guillemets, je ne vais pas dire l'ingérence, mais la position, le positionnement américain dans la région.
C'est très juste. En fait, c'est la question des crossovers entre l'Union européenne et l'OTAN dans cette région du monde. C'est qu'est-ce qui va advenir de l'Alliance Atlantique si les pays où les Américains avaient des bases avancées qui leur permettaient d'avoir quand même un œil sur Moscou, hein, disons-le clairement.
Le nom, c'était ça, des bases avancées, c'est ça.
Donc effectivement, ça pose aussi cette question-là. Je serais d'ailleurs pas étonné qu'en coulisses, les Américains freinent un peu des deux fers pour que les adhésions de certains pays se fassent aussi rapidement que ces pays le voudraient. Donc effectivement, ça remet aussi beaucoup en cause la raison d'être de ces bases avancées américaines en Europe de l'Est.
Ouais, affaire à suivre en tout cas.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci Nathanaël.
À bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.